Alors j'aimerais ce matin partager avec vous un passage qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Dans l'église où je suis actuellement, nous faisons une lecture suivie. Et donc là, nous sommes au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Donc chapitre 5 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25 et ensuite le chapitre 6, le verset 1 à 6. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Chapitre 6, versets 1 à 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui le font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc je pense que vous avez tout de suite compris, ce passage a un thème très fort, et c'est le thème de la soumission. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin, mais juste avant j'aimerais qu'on puisse prier. Père, ce matin, nous voulons nous approcher de toi et nous voulons que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses enlever tout ce qui est un filtre, tout ce qui empêche que nous puissions être honnêtes face à ta parole qui est la vérité et qui est là pour nous aider à grandir en toi. Vraiment, donne-nous ce matin d'avoir une intime communion avec toi et que ta parole puisse nous édifier. Amen. Alors comme je l'ai déjà dit, ce thème de la soumission est bien fort dans ces passages. Mais autant il est fort dans ce passage, mais ce thème aujourd'hui, est-ce qu'il est encore fort? Est-ce que ce thème est un thème à la mode? Est-ce que c'est un thème qu'on apprécie? Personnellement, Luciano n'apprécie pas la soumission. Alors de deux choses l'une, ou je ne comprends pas ce qu'est la soumission, ou je ne veux pas comprendre. On voit très bien de nos jours, dans les couples, que ça se passe pas très bien. Un couple sur trois divorce, sans compter ceux qui ont divorcé moralement. Ils sont ensemble, mais la belle aventure n'est plus si belle que ça. Ensuite, on n'a qu'à regarder dans la société. La France, en tout cas, sans vouloir l'accuser, je crois que est un pays spécialisé dans la revendication. J'ai le droit. Ensuite, quand on voit dans l'Église le mot soumission, ce n'est pas toujours cela. Quand on regarde notre société, les émissions à la télé ont des noms qui parlent. Je ne connais pas toutes les émissions, mais de quelques émissions que je connais, certaines, c'est mon choix. Ça se discute. Et je ne veux pas faire la publicité d'autres. Mais ça reflète la pensée de la France. Ça reflète notre pensée. Pourtant, la Bible nous parle de soumission. Mais en France, on dit liberté, fraternité, égalité. Et le mot liberté, on l'aime. Ah, ce mot, on l'aime. Autant la soumission, on aime moins. Mais liberté, ça, c'est un mot qu'on aime bien. On est libre. On est libre de faire ce que l'on veut. Pourtant, la Bible nous enseigne que la soumission est nécessaire. Et c'est ce que j'aimerais voir ce matin avec vous. Pourquoi est-ce que la Bible nous enseigne que la soumission est nécessaire? Pourquoi est-ce que cette soumission est nécessaire? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Et je crois que la soumission nous garantit notre édification. La soumission est nécessaire pour que l'on puisse grandir. Alors tout d'abord, le premier aspect que j'aimerais développer, c'est que la soumission exclut la rivalité. Versets 20 et 21 du chapitre 5. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant les uns aux autres. Jésus a souvent essayé d'apprendre aux disciples à se soumettre les uns les autres. Et quelle était leur attitude? Je vous invite à prendre dans Luc 22, Luc 22, versets 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » La soumission exclut la rivalité. Elle exclut la rivalité dans le couple. Elle exclut la rivalité dans l'Église. Elle exclut la rivalité dans la société. Parce que si nous voulons être les plus grands, ça ne marche pas. Et déjà à l'époque des apôtres, il y avait ces contestations. Qui est le plus grand? Moi, je ne me soumets pas. Moi, je veux être au-dessus. Soumettre, c'est en dessous. Mais moi, je veux être au-dessus. Et déjà à l'époque des apôtres. Et Jésus les enseignait déjà. Il leur disait, « Moi qui suis au milieu de vous, je suis le maître et je vous sers. J'ai l'attitude de celui qui se met en dessous. Et vous, qui êtes-vous pour vouloir être au-dessus? Est-ce que dans l'attitude fraternelle entre un frère, est-ce qu'on le vit? On le sait peut-être, mais est-ce qu'on le vit? Combien de fois on peut faire du bien à un frère et puis s'attendre à un merci? Il m'a même pas dit merci. La prochaine fois, il n'a qu'à le faire lui-même. Ça, c'est pas se soumettre. Parce qu'on attend quelque chose. Soumettez-vous les uns les autres. Ça exclut les rivalités. Il y a encore une belle image de cela, d'Abraham. Et je vous invite à prendre Genèse au chapitre 13, versets 5 à 10. Genèse, chapitre 13, versets 5 à 10. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs bienfaits étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Là, on voit deux personnes de la même famille, riches. Il y a un problème. On a tellement de richesses, on est tellement riches, qu'on peut plus rester ensemble. Alors moi, je vois trois possibilités. La première possibilité, on va diminuer nos richesses, tout simplement, et on reste ensemble. La deuxième possibilité, Abraham aurait pu dire, « Et ici le patron, c'est moi. C'est moi l'aîné. C'est moi qui t'ai emmené avec moi. Je n'étais même pas obligé de le faire. Et ce que tu as aujourd'hui, tu peux me remercier. C'est un peu grâce à moi. » Et bien sûr, la troisième possibilité qu'on connaît, c'est Abraham s'efface. Alors la question que je vais vous poser ce matin, qu'est-ce que vous auriez fait? Êtes-vous prêt à diminuer? Êtes-vous prêt à renoncer? Ou êtes-vous prêt à défendre vos droits? Soumettez-vous les uns les autres. La soumission exclut les rivalités. Et Abraham avait compris cela. Il lui dit, « Je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre nous. » Quelle était l'intention d'Abraham? C'était la paix. Et il était prêt à tout donner. C'est pas évident. Pourtant, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et pourquoi? Pour la paix. Et est-ce que la paix ne vaut bien pas plus que l'argent? Alors, il y a Lot. Lot a vite compris. Là, je vois une plaine qui est verte. Et là, mes richesses, elles vont fructifier encore plus. Et puis de l'autre côté, c'est le désert, c'est difficile. Et je vous rappelle le verset que je vous ai dit avant. « Il n'est personne qui laisse pour moi, qui ne reçoive. » Il s'avère que la plaine verdoyante n'était pas si verdoyante que cela. Je vous ai dit que la soumission est nécessaire pour qu'on puisse grandir. Parce que quand on se soumet à Dieu, c'est qu'on croit que Dieu est capable de toute chose. C'est qu'on croit que notre avenir est entre de bonnes mains. Mais quand on ne veut pas se soumettre, c'est qu'on veut s'exclure de la soumission. S'exclure de croire. S'exclure de la volonté de Dieu et faire ma volonté. Et c'est là que les problèmes commencent. À partir du moment où on fait une parallèle, notre parallèle. Sommes-nous des Abraham, prêts à se soumettre? Pour mon frère, pour qu'il puisse grandir. Et vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « Si tu veux recevoir, tu dois ouvrir ta main. » Parce qu'en gardant dans ta main tout ce que tu as, tu garderas le peu que tu as, mais tu ne recevras rien d'autre. Se soumettre dans l'église, dans le foyer, à ses parents, à son employeur, c'est difficile. J'avais du mal avec mon employeur des fois. Mais le Seigneur n'a jamais dit que nous n'avons pas le droit de crier à lui et de dire « Je ne peux pas, je n'y arrive pas Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et le Seigneur pourvoit. Mais il faut que nous soyons honnêtes et que nous venions à lui. La soumission exclut toute rivalité. Le deuxième aspect que j'aimerais souligner avec vous dans ces passages, c'est que la soumission fixe un ordre. Fixe un équilibre. Je me souviens un jour, je le faisais plusieurs fois d'ailleurs, avant de me marier, quand je rencontrais une jeune fille, je lui disais « Qu'est-ce que tu penses de femme, soyez soumise ?» Je peux vous garantir que la riposte était là. Et souvent, le verset, c'était le verset 21. Oui, mais tu sais, il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Je dis « Oui, c'est vrai ». À l'époque, je ne savais pas trop encore la portée de ce passage. Mais je crois qu'on ne comprend pas parfaitement ce que veut dire la soumission dans la Bible, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Je mets tout de suite les choses au clair. Encore ce matin, on me disait « c'est toi qui conduis ?» Et j'ai dit « non, c'est Anne qui conduit ?» J'ai dit « non, c'est moi qui conduis. » Elle a dit « oh, je vois une pointe de machisme. » Je dis « ah, oui, c'est vrai, elle n'a pas tort. Pourquoi ?» On ne comprend pas forcément, nous les hommes, exactement la soumission de la Bible. C'est un ordre logique, un ordre équilibré. Dieu est équilibré, c'est nous qui ne sommes pas équilibrés. Pourquoi? Est-ce que par exemple, il serait naturel que des parents se soumettent à leurs enfants? Est-ce qu'il serait naturel que des employés dominent sur les employeurs? Et on pourrait faire plusieurs exemples ainsi. Est-ce que il est naturel que un gendarme sur la route n'ait rien à me dire, mais que moi j'ai quelque chose à lui dire? Ça nous plairait bien des fois, n'est-ce pas? Pourtant, il y a un ordre. Et vous savez ce que veut dire le mot soumission? Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en grec, le mot est hypotasso, qui est la composition de deux mots, d'une préposition collée à un mot. Tasso veut dire une autorité attribuée à une personne. Et hypo, ça veut dire sous, soumettre. C'est-à-dire, je dois me soumettre à la personne à qui on a attribué une autorité. Non pas à une personne qui est plus forte, plus intelligente ou meilleure, pas du tout. Parce que combien d'hommes vont dire « Oui, mais les femmes, elles savent pas gérer. C'est nous les hommes qui savons gérer. » Et les femmes pensent la même chose de leur côté. Les hommes, ben vous n'êtes même pas organisés. Vous n'êtes pas capables de faire deux choses à la fois. Et c'est vrai. Mais le mot soumission ne veut pas dire cela. C'est qu'il y a un ordre. Et l'ordre de Dieu, c'est qu'il a attribué une responsabilité aux hommes. Et il a attribué des responsabilités aux femmes. Et il a attribué des responsabilités aux autorités, aux maîtres, aux employeurs, aux parents. Et il leur a donné une autorité, aux parents, d'éduquer les enfants. Donc ce n'est pas les enfants qui vont éduquer les parents. C'est ça le bon équilibre. L'ordre logique de Dieu. Juste encore une petite parenthèse pour nous les hommes qui pensons, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, les femmes ne sont pas capables. Au début de la création du monde, Dieu dira « Je fais la femme, elle sera une aide pour toi. Pourquoi ? Parce que tu en as besoin. » Donc ce discours de dire « Les femmes ne sont pas capables », non, c'est nous qui ne sommes pas capables et nous avons besoin d'elles. Donc c'est l'ordre, c'est l'équilibre normal. Il y a aussi le respect et la charge de chacun. Nous voyons dans le verset 22, par exemple, qu'il est dit à la femme de se soumettre comme à qui ? Comme au Seigneur. Se soumettre comme au Seigneur. Quelle est la référence ? Femme, tu vas te soumettre parce que ton mari est plus intelligent que toi. Non ? Femme, tu vas te soumettre parce que ton mari est beaucoup plus capable. Non. Il est dit, femme, tu vas te soumettre comme au Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui a donné cette autorité à l'homme. Et en obéissant, en se soumettant à son époux, ce n'est pas à son époux qu'elle se soumet, c'est à Christ, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'homme qui est venu sur terre, qui était juste et qui connaît parfaitement ce que nous pouvons vivre ici sur terre. C'est lui qui est Dieu, qui donne l'équilibre parfait et qui a institué toute chose. Et il a décidé que c'est l'homme qui sera le chef de la femme. Comme il est dit au verset 23, « Comme Christ est le chef de l'Église. » L'homme a un niveau très haut, un idéal très haut. L'homme doit aimer sa femme comme Christ. Voyez, c'est comme. Ce sont des références, non pas des références ici sur terre. Notre problème, c'est que nous restons trop terrestres. C'est comme Christ. Est-ce qu'il est difficile à une épouse de se soumettre à Christ, qui a tant aimé le monde, qui a donné sa vie pour lui? Est-ce que ça ne serait pas mérité? Eh bien, de même, est-ce que une épouse aurait des difficultés à se soumettre à un homme qui est prêt à payer le prix? Jacob a payé 14 années de sa vie pour son épouse. N'est-ce pas une merveilleuse preuve d'amour? 14 années de travail. Ça nous fait parler, cette image. Christ veut que nous vivions ces choses comme cela. Femme, soumets-toi à ton mari. Homme, comme pour Christ, tu aimeras ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. Ne perdons pas d'esprit cette pensée, ces références, qui sont des références célestes, non pas des références terrestres. Parce que si nous tombons dans les références terrestres, nous perdons cet équilibre. Et alors, qu'est-ce qui va en pâtir? Ça sera le couple. Ça sera nos relations au travail. Oui, mon patron n'est pas juste. Mais si je le respecte, et si je me soumets, c'est parce que Christ lui a confié une autorité. Et il rendra compte de ce qu'il a fait. Je rendrai compte si je me suis soumis à l'autorité que Dieu a instituée. Hypotasso, autorité instituée de Dieu. Et c'est pareil, bien évidemment, pour les enfants, pour les parents et dans le couple. La soumission donne un équilibre. Le troisième aspect, et qui, pour moi, je trouve est un des plus importants, c'est que la soumission est un exemple donné par Jésus-Christ lui-même. Lui-même s'est soumis. Et je vous invite à prendre l'évangile de Jean au chapitre 13, à partir du verset 12 au verset 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les fassiez. Je trouve que cette dernière parole a une force. Vous êtes heureux, pourvu que vous les fassiez. Il a lavé les pieds. Il a été le serviteur. La soumission nous garantit notre édification. L'amour a besoin de la soumission. On doit se soumettre. C'est une preuve d'amour. Pourquoi ne pas se soumettre? C'est une preuve d'égoïsme. Et Jésus nous dit dans ces versets: pourvu que vous pratiquiez cela. Afin que quoi? Que vous soyez heureux. N'ayons jamais peur, n'ayons jamais la crainte que dans la souffrance nous allons pâtir. C'est peut-être difficile, mais nous serons heureux. C'est Jésus-Christ qui le dit. À moins que nous considérions que la parole de Dieu n'est pas juste. À moins que nous considérions que les paroles de Dieu ne sont pas efficaces et n'ont pas une portée profonde. Pourvu que vous le fassiez. Je vous invite aussi à prendre dans Philippiens, au chapitre 2, versets 1 à 41, où il nous est bien dit et nous voyons que la soumission change notre regard. Nous voyons la vie, le monde, notre entourage, d'une autre manière. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 41. Nous devons estimer les autres plus importants que nous. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même cœur, une même âme. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Pour terminer, j'aimerais juste vous rappeler que l'humanité entière est tombée dans le péché, en Adam et en Ève, pour une raison. C'est que Adam et Ève ont refusé de se soumettre à Dieu. Ils ont refusé d'obéir. Si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ne se sont pas soumis à la parole de Dieu. La soumission nous garantit dans tous les termes, de toutes les manières que nous puissions grandir. Parce que premièrement, elle exclut toute rivalité. Deuxièmement, elle crée un équilibre et un ordre dans nos vies. Troisièmement, parce qu'elle est l'exemple qui a été laissé par Jésus-Christ. Dans Jacques 4, verset 7, il n'est pas écrit « Soumettez-vous au diable, mais résistez à Dieu et il fuira loin de vous. » Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen.